partout au Québec. Vous écoutez l'effet Normando. Voici Nathalie Normando.
Et voilà qu'on débute ensemble cette deuxième heure d'émission, les 11h05. Avant d'aller à Mark Hamilton, notre prochain invité, c'est la révélation du jour. Les lecteurs CO2, notre invité Sylvain Martel nous disait que le gouvernement n'appelle pas ça des lecteurs CO2, il appelle ça des lecteurs de paramètres de confort. Pour moi, là, ça, c'est la meilleure aujourd'hui. Des lecteurs de paramètres de confort. Des lecteurs pour mesurer le taux de CO2 dans une classe. Ça se peut-tu? Ça, c'est incroyable. Il y a un auditeur là-dessus qui travaille dans le domaine des salles mécaniques, puis il nous disait justement que les lecteurs de CO2, ça ne changera absolument rien, ça n'aidera absolument rien la gestion de la COVID. Lui, ce qu'il dit, c'est enfin, si tu mesures le taux de CO2 dans l'air pour éviter de perdre conscience dans une classe, mais le vrai enjeu, c'est celui de la ventilation, celui dont le gouvernement ne parle pas suffisamment. Mais retenez ça, lecture de paramètres de confort. Dans ce merveilleux monde du politiquement correct, le gouvernement trouve une façon de désigner ou de renommer ce qu'on désigne généralement par lecteur de CO2. Enfin, c'est assez incroyable. Mark Hamilton est là, microbiologiste, président d'Eurofin Environex. Bonjour à vous, Marc.
Oui, bon matin.
Heureuse de vous retrouver, Marc. On demande à nos auditeurs, seriez-vous prêt à recevoir une dose de rappel à chaque année? Ça, c'est un enjeu très important. Là, on est rendu à 3 doses. Il y a des endroits sur la planète qui ont commencé à injecter la 4e dose. Je voyais ce matin, je pense, un article de Radio-Canada dans les établissements de soins de longue durée en Ontario. On a déjà commencé à donner la 4e dose. Alors, là, après 3 doses, 4e dose, 5e dose, 6e dose, enfin, un peu comme on le fait avec la grippe, c'est la question auprès de nos auditeurs, Marc. Tout ça pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. Alors, Marc, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais, dans cet objectif qu'on a d'être immunisé collectivement contre la COVID, est-ce qu'on devra, à chaque année, avoir une dose de rappel, selon vous?
Ben absolument. Je pense que on le voit. Qu'est-ce qui fait qu'on doit être vacciné aussi rapidement, là, comme vous venez de le mentionner, c'est que le vaccin qu'on a de ARN messager présentement est spécifique à la première version de la COVID. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait toujours suffisamment d'anticorps pour que l'entraînement immunitaire qu'on a dans notre système soit suffisamment entraîné pour que si on attrape un variant, on ait moins de complications. Et considérant que c'est un vaccin qui est pas spécifique à l'Omicron, ben il faut le renouveler. Comme c'est là, il y a beaucoup de pays même qui disent aux 3 mois, il faut recommencer. Bon, ça, c'est un cas de figure. Avec dans le cas qu'on est en contrôle de la maladie, puis quand on est post-Omicron, on est rendu l'été, bon, les gens oublient la COVID comme l'année passée. Puis on se dit, est-ce qu'on devrait avoir une dose de rappel pour les années futures? Bon, quand on parle qu'un virus est rendu endémique, ça veut dire qu'il risque de revenir tôt ou tard dans un contaminant de l'air, là, comme tous les autres virus respiratoires qu'on reçoit chaque année. Et considérant que l'immunité créée par la vaccination pour les coronavirus est de très faible durée, c'est rendu qu'on veut se faire vacciner aux 3 mois, mais c'est évident quand on sera en contrôle. Et l'immunité collective, c'est quoi? L'immunité collective, c'est lorsque soit beaucoup de gens l'ont attrapé et ont développé une immunité parce que tout le monde a eu le virus, mais bon, ne veut pas, le système immunitaire a été entraîné, ou il y a eu un très haut nombre de gens vaccinés contre un virus en particulier. Donc, c'est un peu ce qu'on vit présentement. Là. Présentement, avec le Omicron, là, moi, j'estime qu'il y a plus de 1,2 million de personnes dans le dernier mois qui l'ont attrapé. Déclaré ou non, là, que ce soit là, juste par les symptômes, les gens l'ont eu, ils ne se sont pas fait tester. Mais imaginez, c'est déjà 1/8 de la province qui l'a attrapé en un mois et demi, jumelé avec les gens vaccinés. L'immunité collective, Nathalie, je pense qu'on est pas mal rendu là. Je pense qu'on l'a atteint. C'est juste que le problème qu'on a avec les fameux coronavirus, c'est que c'est toujours à recommencer parce que notre système immunitaire n'est pas capable de produire des anticorps à long terme efficaces. De sorte que si on veut continuer ou entretenir cette immunité collective-là, on devra, du moins, on le souhaite, avoir pas plus qu'une injection par année de rappel pour que notre système soit toujours prêt à faire face à un futur variant du COVID qui va être probablement à venir. On sait qu'on a deux variants majeurs à chaque année. Il y en aura d'autres, assurément. Donc, moi, je m'attends à ce que ça devienne une routine de se vacciner au moins une fois par année pour au moins quelques années encore.
Donc, Marc, c'est la nature de la bête, c'est-à-dire le coronavirus, là, qui fait en sorte que pour que notre corps, pour qu'on ait des anticorps, c'est ce qui explique qu'on devrait se faire vacciner une fois par année. C'est pas parce que le vaccin, l'effet du vaccin, est-ce que c'est plus parce que c'est l'effet du vaccin qui diminue ou c'est à cause de la nature de la bête qui est que sont les coronavirus?
C'est surtout la nature de la bête qui, un exemple que je peux vous donner, quelqu'un qui aurait eu le variant Delta, exemple, l'année passée, quand elle est sortie au mois d'avril, si le Delta se courrait encore, il pourrait l'attraper encore une fois parce que la mémoire immunitaire de notre système immunitaire associée à n'importe quel coronavirus, pas inclus, là, les petits rhumes légers, ça dure à court terme. La bête fait en sorte que notre système immunitaire n'est pas capable de garder une mémoire immunitaire comme un exemple que je vais te donner d'un virus où est-ce que une vaccination va durer une vie. Pense à la rougeole, pense à la poliomyélite où est-ce qu'on est vacciné en bas âge puis on a eu un vaccin, c'est terminé. On n'aura jamais poliomyélite de notre vie. Ça, c'est des vaccins, c'est des virus qui sont complètement différents au niveau de la mémoire immunitaire. Et c'est des virus aussi, quand on regarde la polio ou même la rougeole, qui ne se mutent pas dans le temps. C'est un virus qui est beaucoup plus facile à contrôler dans les sociétés qu'un fameux coronavirus. Et c'est une des raisons pourquoi on n'a jamais fait de vaccin contre les coronavirus auparavant. Parce que c'est très difficile d'en faire un efficace à long terme. Ça devient never-ending. Et c'est un peu ce qu'on vit présentement. Et soit en là que bon, on n'aura pas plus qu'une dose de rappel par année là, pour contrôler l'endémie qui débute et qui va s'en suivre.
Éric nous écrit via le courriel, d'accord pour un rappel volontaire, mais pas question d'être obligatoire. En regardant Israël, ils sont rendus à 4 doses et le bordel est toujours là. Vous voyez ça comme nous, Marc, la situation en Israël. Ils ont un taux de vaccination élevé, comme au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on répond à une préoccupation comme celle qu'exprime Éric ce matin?
Ben moi je pense qu'Éric a quelque part raison. On peut pas obliger quelqu'un de se faire vacciner. Puis on le sait, la vaccination, on n'empêche pas d'attraper la maladie. On empêche juste, dans ce cas-ci, d'empêcher des formes graves de la maladie. Moi je pense que ce qui est important d'avoir comme leçon de cette pandémie-là, c'est notre système de santé qui se doit faire face à une future endémie du virus et que même si on est à 95% vacciné, 1, 2, 3, 4 fois. Bien, ce qu'on vit présentement risque de revenir dans le futur parce qu'on ne sera jamais capable d'avoir 100% de gens vaccinés. Puis comme je le disais, la mémoire immunitaire par rapport au virus, par rapport aux vaccinations, est toujours de court terme. Fait qu'on risque de revoir dans le futur d'autres situations similaires. Fait que ça va être de notre système immunitaire d'être capable d'absorber 2500, 3000 personnes malades qui pourraient arriver en même temps et de faire en sorte qu'on puisse passer plus facilement au travers sans nécessairement avoir des mesures draconiennes comme on a présentement. Où est-ce que les couvre-feux, bon, on sait qu'ils vont être cancellés, mais tu sais, les restaurants fermés, les gyms, parce que ce qu'on vit là présentement, considérant ce que je viens d'expliquer, ça risque de revenir. Donc, il faut vraiment être certain que notre système de santé est capable d'absorber une crise sanitaire qui pourrait être similaire dans un an. Ça pourrait être prévisible.
Bon, c'est intéressant, là, très intéressant. J'ai l'impression qu'on a un cours 101 là, sur l'immunité collective et tout ça, de quelle façon les vaccins jouent contre ça. Précision, Marc, d'une infirmière en vaccination. La rougeole, elle nous dit que c'est deux vaccins pour être protégés. La polio, s'il y a plusieurs rappels également entre 2 mois et 5 ans. Réaction d'un auditeur, pourquoi les compagnies pharmaceutiques ne travaillent pas un vaccin qui enraye le virus? C'est exactement ce que demande l'Organisation mondiale la santé, Marc, que les Pfizer de ce monde, les Moderna, travaillent un vaccin qui enraye le virus. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'un vaccin puisse enrayer le virus, un coronavirus? Est-ce qu'on peut imaginer ça un jour?
Présentement, j'en doute fort. Présentement, avec ce que la science est capable de faire, avec ce qu'on connaît actuellement, considérant les coronavirus et tout ce qui a été écrit là-dessus, la probabilité de trouver un vaccin qui va être aussi efficace comme la polio ou la rougeole, j'en doute très fort. C'est des virus qui évoluent, qui se mutent très, très, très facilement. Et il faudrait, autrement dit, éliminer de la planète les coronavirus si on veut éviter qu'ils nous infectent pas, quelque chose qui arrivera jamais. Donc, il faut vivre avec ce risque-là. Et même les influenza, hein, tu sais, l'influenza, il y a 100 ans passé, on regarde avec la grippe espagnole, tu sais, ça a décimé, on parle 80 millions de personnes. L'influenza, après ça, ben, elle est devenue endémique, puis aujourd'hui, ça devient des grippes saisonnières à H1N1, et la vaccination devient une fois par année. Mais la grosse crise, le pic qu'on a eu, elle a eu 100 ans passé. Aujourd'hui, on a des brides des mutations qu'il y a eu par la suite de cet H1N1-là, qui fait qu'aujourd'hui, on vit avec, on vit très bien avec, parce que pourquoi, dans 100 ans, on a développé une immunité collective efficace contre ces virus-là avec les années. Et c'est ça que, tranquillement, on veut qu'il s'y installe. Mais de là à dire, on va trouver un vaccin qui, une fois, on va éliminer le virus, moi, j'y crois pas.
Ah oui, tu, mon Dieu. Puis toi qui es microbiologiste, Marc, de formation. Une question, je ne sais pas si la question est pertinente ou encore est-ce que tu pourrais répondre, Marc, pourquoi un vaccin à ARN messager? Pourquoi n'essaie-t-on pas un vaccin classique à virus affaibli? On n'a rien à perdre, point d'interrogation.
C'est la rapidité d'exécuter en grande quantité, principalement. Parce qu'un virus, mettons, l'AstraZeneca est un virus, où est-ce qu'on a pris un vecteur, un adénovirus, où est-ce qu'on a contaminé d'adénovirus pour qu'il nous contamine nous. En tout cas, c'est toute une histoire. Mais si on prend l'histoire de l'ARN messager, pourquoi qu'on opte pour lui? C'est que la technologie est beaucoup plus facile à faire à grande échelle. Donc, l'ARN messager, c'est quoi? C'est une injection qu'on vous fait, ben, du moins de la même manière que ce serait un virus affaibli au niveau intramusculaire. Et si je vous vulgarise d'une manière pour que les gens comprennent tous, c'est que l'ARN messager va aller se fixer sur des protéines qui ont, entre autres, les récepteurs, où est-ce que le coronavirus reconnaît, va rentrer dans cette cellule-là, va reprogrammer la cellule qui, elle, est spécifique au virus, et va faire en sorte que votre cible de virus va devenir une cible d'attaque par votre système immunitaire et va créer cette immunité-là. Donc, on n'injecte pas la maladie, on injecte juste une copie de la maladie de l'ARN qui va se transformer, que la cellule qui va la recevoir va se transformer pour être reconnue par votre système immunitaire. Donc, c'est une technologie qui est facile à faire. On peut faire un vaccin qui va prendre entre 3 et 6 mois maximum pour faire une nouvelle version. Donc, présentement, c'est le vaccin de l'heure. Les autres vaccins, de faire recommencer, de refaire des vaccins plus rapidement, c'est plus difficile. Je dis pas que c'est pas une bonne idée de le faire. De faire par des comme l'AstraZeneca ou même le Sputnik, le virus que les Russes utilisent, ou même le Sinovac, le vaccin que les Chinois utilisent. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est juste que la capacité d'en produire beaucoup et d'assurer une immunité à long terme, surtout avec les répétitivités, ça reste un vaccin ARN messager qui, pour l'instant, remporte la palme.
Marc, vous demeurez avec nous. On va aller voir ce que nos auditeurs en pensent. 514-790-9850 ou 1-866-790-9850. Est-ce que vous seriez prêt à recevoir une dose de rappel à chaque année? Jonathan nous écrit, nous sommes triplement vaccinés, sa conjointe et lui, les enfants doublement. Pas de problème avec le ou les doses de rappel, mais le retour de l'ascenseur doit revenir. Ouvrez les restos, les gyms, salles de spectacle sans restriction. Sinon, ça donne quoi le rappel? C'est ce que le monde va se dire. Alors, je pense que le propos de Jonathan rejoint une majorité d'entre vous. Oui, c'est parti pour la pause et on poursuit notre discussion sur cet important enjeu sur les doses de rappel.
Partout au Québec, la parole est à vous. Pour participer à l'Effet Normando, 1-866-790-9850 et sur le web.
Annie nous écrit, ben oui, oui, pour une dose de rappel, parce que la vaccination, ben ça nous permet de, c'est la solution. C'est pas l'unique solution, mais ça nous a permis, évidemment, de minimiser les impacts liés au coronavirus et à la COVID. Également, d'autres réactions de votre part. En fait, vous êtes plusieurs à dire oui à une troisième dose, mais il y en a quelques-uns parmi vous qui disent, ben, un instant, là, il faut être... il y aura encore des questions, des interrogations, comme Medicago. Avant d'aller à notre auditrice... Ah ben Marc, je vais te poser une question. Je vais poser une question, oui. Marc, sur le Medicago, mais avant, je vais aller à Suzanne et Marie-Annick qui sont au bout du fil. Bonjour, Suzanne.
Bonjour. Moi, je serais d'accord, mais il nous donnerait-tu, on pourrait-tu le recevoir en même temps que le vaccin pour la grippe là, ordinaire, là, tout ça?
C'est une bonne question.
Je sais pas si vous pouvez nous les donner les deux en même temps, puis ça nous exempterait-tu de porter le masque?
Ah, ça, ma chère Suzanne, on n'a pas cette réponse-là. Par contre,
non,
le fait de combiner le vaccin contre la grippe et une dose de rappel, Marc, est-ce qu'il y aurait un problème éventuellement à ça? Est-ce qu'on peut répondre à ça?
Bien sûr. Actuellement, pour ceux qui ont eu le vaccin de la grippe, on pouvait avoir la journée même ou en même temps,
oui, hein?
une injection d'un bras là, avec grippe, puis l'autre bras, la COVID. Ça, il n'y a aucune contre-indication. Est-ce que dans le futur, on sera en mesure de joindre le vaccin de la COVID dans le vaccin qui contient aussi des anticorps, ou du moins le vaccin contre la grippe? Possiblement. Je pense que c'est dans l'équation. Moi, je suis pas mal certain qu'on verra très bientôt des vaccins mixtes, où est-ce qu'on pourra à la fois traiter plus qu'un virus, mais peut-être pas cette année, mais je pense que c'est quelque chose qui va être évalué, qui est principalement en train de se faire évaluer.
OK. Mais pour ce qui est de l'autre portion, c'est-à-dire, comme Jonathan le disait, Suzanne, est-ce qu'on va, une dose de rappel à chaque année, est-ce qu'on va pouvoir, dans le fond, dire non à toutes les mesures, c'est-à-dire abolir le passeport vaccinal, par exemple? Ça, il est trop tôt pour répondre à une question comme celle-là pour l'instant. Et le gouvernement donnera certainement des précisions dans un futur qui, souhaitons-le, ne soit pas trop éloigné. Marie-Annick est au bout du fil. Bonjour à vous. Allô? Est-ce que vous m'entendez, Marie-Annick?
Oui, vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends bien, Marie-Annick. Est-ce que vous seriez prête à recevoir une dose de rappel à chaque année?
Oui, définitivement. Je suis infirmière de toute façon, donc je pense que ça fait mal.
Okay.
Par contre, j'aurais une question à Marc. Je me demande si ça ne serait pas plus pertinent, avant de se rendre dans les 4, 5, 6e doses au Québec, d'envoyer des vaccins dans des pays en voie de développement où est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de variants qui se forment là-bas parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas eu accès à leur première dose encore?
Mais la réponse est oui, absolument. Puis honnêtement, avant de parler de quatrième, cinquième puis sixième dose, il y a même des pays qui sont rendus à leur cinquième dose. Moi, je trouve ça un peu aberrant. Moi, je pense honnêtement, on devrait commencer à vacciner le reste de la planète. Là, à peu près 25% de la planète là, qui ont accès facile au vaccin actuel. Je pense que oui, tu as entièrement raison. Il faut commencer à vacciner, ou du moins une première dose, le reste de la planète, parce que oui, c'est ça qui peut stopper du moins la création de variants dans les pays sous-développés, entre autres.
Merci beaucoup, Marie-Annick. Ça revient souvent dans les interrogations de nos auditeurs, Marc, l'importance de vacciner le reste de la planète. Sinon, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Notre prochaine invitée est Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bon jeudi.
Bien, merci.
Avez-vous une question peut-être pour... Vous avez des... OK, parfait. Bien, on vous écoute.
Oui. J'ai trois petites choses. Tu sais, quand on dit, mettons, que... Dans le temps, là, quand il y a eu la chose espagnole, là, puis que ça a tué 5 millions de personnes. Oui. Tu sais, ça a tué 5 millions de personnes, mais de là, 100 ans, il n'était pas 8 milliards sur la planète. On était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de personnes. Puis, tu sais, aujourd'hui, ça a tué, je veux dire, 5 millions de personnes, oui. Puis aujourd'hui, on est 8 milliards, puis ça a tué 5 millions de personnes. Puis on est tous entassés les uns les autres, puis ça passe sur une planète au complet. Je trouve que c'est pas une grosse proportion à comparer de l'autre. Ça, c'est une des choses. Moi, non pour une troisième dose. J'en ai eu deux. J'ai eu juste une grippe une fois dans ma vie. Je suis jamais morte de ça, puis j'ai 48 ans. Puis je me dis, mon ami, j'ai un de mes amis qui a 54 ans, qui est à sa retraite, puis là, il est à son condo en Floride, puis lui, il est allé se faire, il a payé 200 US pour voir si c'était le coronavirus qu'il y a eu en 2019 sur une croisière. Puis effectivement, deux ans plus tard, deux ans et quelques mois, il y a encore 45% de les anticorps dans son système. Alors, quand que le gouvernement te dit que si tu as eu le coronavirus en ce moment, puis que dans trois mois, il faut que tu ailles te chercher une autre dose, non, mais tu veux-tu me faire une overdose de coronavirus, là?
OK, et Isabelle.
Après deux ans et demi, la personne, elle a encore 40% d'anticorps. Tu comprends, à un moment donné, il faut arrêter, là. Là, il y a
C'est une bonne question, Isabelle. Si vous permettez, là, je vais aller à Marc là-dessus, parce que vous n'êtes pas la seule à être préoccupée par l'accumulation des anticorps dans le corps humain. C'est une question très pertinente. Merci beaucoup, Isabelle. Marc, est-ce qu'on a une réponse pour ça?
Bien, on peut pas faire d'overdose d'anticorps. Notre système immunitaire prend ce qu'il a besoin et il rejette l'overdose. C'est que même on pourrait avoir 8-9 injections dans une année. Maintenant, on va atteindre le maximum du niveau d'anticorps et le reste ne servira à rien. Là. Donc, les seuls effets secondaires que vous pouvez avoir, c'est les effets secondaires que vous avez présentement lorsque vous faites vacciner, mal au bras ou des symptômes associés à une grippe ou de la fièvre, ces choses-là. Mais écoutez, c'est sûr que l'immunité à long terme d'un coronavirus va être différente d'un virus à l'autre. Comme tantôt, je disais que le coronavirus, une des raisons pourquoi que le système immunitaire ne retient pas longtemps, c'est parce que c'est sa capacité à se muter rapidement. Donc, votre ami qui a réussi à avoir un test qui est très difficile d'avoir pour calculer la quantité d'anticorps que vous avez en sang spécifique à un virus, qui soit 45%, ben c'est bon, mais probablement pour les virus, les quantités qu'il y avait, 45%, pour la première version du coronavirus. Là, présentement, ce qu'on veut, c'est un niveau de protection qui va atteindre les 80%. Donc, quelqu'un qui est à 45% réattraperait, ça dépend de l'individu, sur le système immunitaire de la force, mais prenons une personne de 60 ans, 50 ans, ou une personne qui est immunosupprimée, 45% d'immunité résiduelle pour affronter l'Omicron ou le Delta, ce serait insuffisant. Il y aurait probablement des effets secondaires beaucoup plus élevés qu'une personne qui n'aura pas été vaccinée. Donc, le but de faire des boosts, ça le dit, on va booster le système immunitaire. Donc, on va partir comme l'ami que vous avez, de 45% à 75-80%. Le but, c'est d'avoir le moins de symptômes possibles associés au coronavirus. Donc, d'avoir à 45%, je trouve ça excellent. Ça veut dire que c'est excellent d'avoir 45% d'immunité après deux ans. Généralement, ça va être plus bas que ça. Mais il n'y a pas personne qui peut faire ces tests-là pour savoir si tu es à 30, si tu es à 50, si tu es à 100. Fait que le gouvernement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met tout le monde dans le même panier, puis allez vous faire vacciner. On veut être certain que tout le monde ait le minimum d'immunité d'anticorps ou de petits soldats qu'il y a dans notre corps pour éviter les cas compliqués.
C'est très intéressant, Marc. Un commentaire sur Medicago. Plusieurs auditeurs nous disent, où est-ce qu'on en est rendu? Pourquoi c'est si long l'approbation du vaccin, un vaccin qui est conçu au Québec? Est-ce que, Marc, vous avez de l'information là-dessus?
Ben écoute, bonne nouvelle. Ils ont soumis à Santé Canada en décembre dernier les résultats de l'étude de phase 3. Phase 3 qui est souvent la dernière phase d'étude là, pré-commercialisation, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'essais sur les humains, là, plus de 30 000 personnes et plus qui ont eu le vaccin puis qui ont été suivis dans des populations à risque. Et présentement, c'est Santé Canada qui ont le rapport et qui doivent se prononcer, à savoir est-ce qu'il y a d'autres complémentarités qui doivent être ajoutées ou quoi que ce soit. Mais présentement, je dirais le gros de la job a été fait. Il reste juste Santé Canada à faire leur devoir d'approuver ou de rajouter d'autres questions. Et ça peut prendre une semaine, un mois, un an, c'est ce qu'on ne sait pas, mais c'est quand même très, très bien avancé.
Marc, est-ce que vous seriez ouvert à ce qu'on fasse à un moment donné une ligne ouverte avec nos auditeurs sur toutes les questions touchant les vaccins, l'impact sur le corps, la façon dont l'immunité se développe? Parce que je me rends compte ce matin là, que moi, j'étais tout ouïe, évidemment. Là, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Puis il y a des mythes qu'on pourrait faire tomber, comme par exemple l'accumulation là, de vaccins dans le corps. Est-ce que c'est dangereux? Vous dites non, c'est pas dangereux. Au contraire, c'est un booster pour stimuler évidemment notre immunité. Est-ce que vous seriez d'accord, Marc, à ce qu'on fasse un exercice comme celui-là avec les auditeurs?
Ben, ça me ferait plaisir.
OK, génial. On met ça peut-être pour la semaine prochaine ou dans quelques jours, on va se reparler à ce sujet. Merci beaucoup, Marc Hamilton, microbiologiste, je le rappelle, président d'Eurofins Environex. Excellente journée, Marc. À bientôt.
Merci, au revoir.
Bye-bye. Ce serait bien, hein, si on pouvait effectivement avoir ce genre de discussion avec Marc. Pourriez nous envoyer vos questions. Puis ça permet un peu de dédramatiser les choses et de mieux comprendre également. Après la pause, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour nos personnes itinérantes?